Radio Okapi.
À la une de cette session d'actualité, tensions persistantes au sein de l'Union sacrée de la nation au sujet de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État recommande un ticket consensuel de sa famille politique dès aujourd'hui. Félix-Antoine Tshisekedi rencontrait hier 406 élus nationaux, dont quarantaine de chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. Les forces armées congolaises et leurs alliés lancent l'offensive sur les positions des rebelles tôt ce samedi dans le village Kashuga, en territoire de Masisi. Un notable dans cette région affirme que les collines surplombant Kashuga, Missinga et Ibuga notamment sont passées entre les mains de l'armée. Ami Sisselemani, président du syndicat national des cadres et agents des secteurs de services, Maniema, est l'invité de ce journal. Infirmier depuis plus de 22 ans, il plaide pour la scission du ministère de la Santé publique. Motif, la marginalisation selon lui des non-médecins, surtout les infirmiers. Bonjour à tous. Vous le savez, l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale prévue initialement pour ce samedi est reportée sine die. C'est ce qui ressort de l'entretien d'hier vendredi entre le président de la République avec 406 députés nationaux et une quarantaine de chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation qui constituent la majorité parlementaire. Prenant en compte les rejets de certaines candidatures proposées par le présidium, Félix-Antoine Tshisekedi recommande à l'exception de Vital Kamerhe, dont la candidature a déjà été soumise aux primaires, qu'un ticket consensuel de l'Union sacrée soit renégocié dès ce samedi. Il dit avoir entendu des sons cacophoniques qui symbolisent un manque de solidarité au sein de la majorité. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait proposé par Alain Hurung.
Ce que j'ai entendu, c'est un son ou des sons cacophoniques qui remontaient de la majorité que vous représentez, et qui malheureusement était discordant et qui vraiment reflète cette inquiétude qui est la mienne, qui symbolise évidemment ce manque de solidarité en ce moment, ces dissensions assez inquiétantes. Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu de la proposition faite par le Présidium. Si les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, eh bien on va les recommencer quitte à ce que nous... Tout ce que je demande deux choses. Dans ce que j'ai vu, qui a été présenté par le Présidium, je n'ai pas été satisfait, d'abord, un, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content.
Au Nord Kivu, de nouveaux affrontements sont signalés tôt ce samedi entre les FRDC et leurs alliés contre le M23 dans le village Kashuga. C'est à une dizaine de kilomètres de la cité de Mweso, dans la chefferie de Bachali en territoire de Masisi. Des sources concordantes dans la région parlent d'offensives lancées par l'armée sur les positions des rebelles. Denise Lukeso.
Des sources à Mweso parlent d'offensives que mènent les FRDC soutenues par les Wazalendo depuis 5 heures locales et se déroulant au cœur des Kashuga Centre et sur les collines surplombant ces centres stratégiques. Les affrontements sont en cours. Selon ces sources, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues. Un notable dans cette région affirme que les collines surplombant Kashuga, Missinga et Ibunga notamment sont passées entre les mains de l'armée, alors que Kashuga Centre est toujours sous occupation rebelle. Il ajoute que c'est depuis 3 jours que les FRDC et leurs alliés mènent des opérations pour déloger les rebelles dans cette région qu'ils occupent depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, sur l'axe Kibirizi-Ruindi, en territoire de Rutshuru, on parle d'un deuxième jour d'accalmie. Les sources à Matanda et Kanyabayunga confirment que Kibirizi-Ruindi et Vichumbi restent sous occupation des rebelles. C'est là, après plusieurs tentatives, en vain, menées par l'armée pour reprendre le contrôle de ces entités. Goma, Denise Lukeso, Radio Okapi.
Pendant 7 ans, en Ituri, 4 enfants et 1 femme ont été abattus la nuit de vendredi à samedi dans une double attaque des assaillants de la Codeco dans les villages de Peti et Moussaba, dans les secteurs de Banyalikilo, dans les territoires de Djougou. Selon des sources locales, ces bilans restent provisoires car la recherche d'autres corps se poursuit. Des notables de cette entité interpellent le gouvernement à ne pas se laisser endormir par des accords de paix signés avec des groupes armés qui ne cessent d'endeuiller la population. Les points avec Martial Kizabiamungu.
La première attaque a eu lieu vers 20h locale d'un groupe d'hommes armés identifiés à certains miliciens de la Codeco non respectueux des accords de paix. Selon certains témoins, ils sont venus de Tchoudja dans les secteurs de Walendjoujati et se sont introduits au village Peti dans les groupements Agonema. Selon des sources locales qui citent des témoins, ces miliciens ont ouvert le feu dans plusieurs directions vers l'école primaire Kilopiti. Dans cette confusion, des enfants seront touchés par balles et meurent sur le champ. 3 femmes gravement blessées sont pour le moment entre la vie et la mort, ajoute la même source. Dans la même nuit, un autre groupe de miliciens Codeco ont envahi le village de Moussaba, tout proche de la commune rurale de Mungwalou. Ici, selon des sources sécuritaires, 3 civils, dont 2 enfants et 1 femme, ont été tués par balle. Des notables du secteur de Banyalikilo parlent de mort de trop et exigent une contrainte militaire pour obliger ces miliciens à déposer les armes. Vital Tungulo, leur président.
Ce n'est pas pour la première fois qu'ils signent d'accord, acte d'engagement. Le fait de déployer seulement les militaires FARDC dans toutes ces zones où ils occupent, je crois que ça fait les contraintes les dissuader.
Des habitants qui ont passé la nuit dans la brousse par paire commencent à regagner leur village depuis ce samedi matin. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Du côté du Kwilu, au moins 4 assaillants Mobondo tués et 1 autre capturé. Bilan des affrontements qui ont eu lieu vendredi entre la milice Mobondo et les habitants du village Mubenga situé au secteur de la Wamba dans les territoires de Bagata, province du Kwilu. L'administrateur de ce territoire, qui l'a dit, indique que faute de l'autorité de l'État, la population s'est soulevée pour réagir aux attaques de ces miliciens. Amédé Mbangambouma ajoute que ces miliciens sont visibles dans plusieurs autres villages de Bagata où ils opèrent. Il demande aux autorités militaires de renforcer les dispositifs sécuritaires dans ces coins. Amédé Mangambouma, l'administrateur du territoire de Bagata, est joint par Irène Mbomaluzolo.
Affirmative, il y avait un affrontement à Mubenga. Les assaillants ont menacé la population de Mubenga. La population était très dynamique. Tu as au moins 4 Mibondo. Et puis, l'un des Mibondo, ils ont arrêté, ils ont amené à Fatundu. Donc, dans ce côté-là, il y a toujours l'insécurité. Nous ne savons pas les éléments de FARDC qu'on a envoyés. Ils sont où? Il n'y a pas des éléments de FARDC de ce côté-là. Les assaillants, ils ont quitté le Kwango vers Matoko. Ils sont là, en bloc. Ils commencent déjà à agresser. Ils commencent déjà à entrer au territoire de Bagata pour faire leur opération. Ils sont aux environs de Bukangalonzo de ce côté-là. Alors nous demandons aux autorités militaires de nous renforcer les éléments, même les éléments de FARDC et les éléments de la police, puisque la sécurité soit dans notre territoire, surtout aux côtés de notre frontière avec la province de Kwango. La population est en train de souffrir.
Entre-temps, les postes administratifs de Misumba, situés à 120 km de la cité de Mweka au Kasai, s'est vidé depuis quelques jours de sa population. Et pour cause, ses habitants ont fui des militaires qui arrêtent des gens arbitrairement et y commettent des actes de vandalisme alors qu'ils étaient venus régler un conflit familial. L'administrateur du territoire de Mweka promet des sanctions contre tous ceux qui troublent la paix dans ces coins du pays. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Selon André Tchedi, activiste de la société civile de Misumba et enfoui à Mweka Centre, tout a commencé avec un conflit familial après qu'un jeune homme a été tabassé par sa belle famille. La même source rapporte que des policiers appelés à la rescousse n'ont pas pu apaiser cette tension. C'est alors que le commandant militaire basé à Boutoua, à 10 kilomètres de Misumba, y a déployé des militaires afin de remettre de l'ordre dans cette entité du Kasai. Arrivés sur place, ces hommes en uniforme se sont illustrés par des actes de vandalisme, comme déplore André Tchedi.
Les militaires ont pillé presque tous les villages, les chèvres, les histoires dans la maison. Nous sommes vides dans nos maisons. Les militaires sont arrivés à Misumba pour torturer les gens. Tout le monde est à la forêt.
Contacté, l'administrateur du territoire de Mweka reconnaît cette situation. François Minga affirme cependant avoir convoqué les commandants ayant déployé les militaires à Misumba pour avoir plus de précisions.
Les commandants de la police qui pensaient ne pas contenir l'enjeu, mais la gestion de la scène n'a pas été du tout catastrophique. Voilà pourquoi on les a tous interpellés ici pour qu'ils nous expliquent clairement ce qu'il y a.
Cette autorité politico-administrative promet des sanctions à l'encontre de ceux qui sont à la base des troubles à Misumba.
Tout autre chapitre, le trafic ferroviaire est interrompu depuis janvier dernier sur les axes Kalemie, Kindu et Lubumbashi à cause de l'effondrement du pont Luizi à la limite entre les territoires de Kabalo et Nyunzu dans les Tanganyika. Conséquence, plusieurs marchandises traînent dans des entrepôts de la Société nationale de chemin de fer du Congo à Kalemie. Les détails avec Paulin Munanga.
Parmi ces marchandises, il y a du sel, du sucre, de la farine de froment et de la soude caustique qui se trouve dans un entrepôt au port de Kalemie. Il y a aussi du ciment et des matériaux de construction dans un autre entrepôt. En outre, il y a une cargaison qui est chargée dans des wagons depuis plusieurs mois, signale des sources à la SNCC. Pour le chef de la direction provinciale de la FEC dans la province du Maniema, plus de 80 wagons de marchandises appartenant aux opérateurs économiques de cette province traînent dans des entrepôts à la SNCC à Kalemie depuis plusieurs mois. Pierre Waswali Lantongue.
Il y a plus de 80 wagons de marchandises qui traînent encore au niveau de Kalemie dans les entrepôts de la SNCC. Et il y a des marchandises périssables telles que la farine, des marchandises telles que le sel, parce qu'aujourd'hui la ville de Kalemie est secouée par les inondations. On est inquiet, on se pose la question, est-ce que ces marchandises ne seront pas touchées par ces inondations? Et quand nous posons la question à la SNCC, pourquoi ces marchandises traînent encore, ils avancent maintenant aujourd'hui les motifs de l'effondrement des ponts à Luizi.
Le directeur des régions des Grands Lacs de la SNCC demande aux clients de retirer leurs marchandises dans des entrepôts de la société. Certains le font, mais d'autres préfèrent garder leurs marchandises dans ces entrepôts. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans le domaine de l'aviation civile, la Régie des voies aériennes, RVA, a signé un protocole d'accord visant le renouvellement des équipements de contrôle des passagers de 5 aéroports de la RDC depuis le 11 avril dernier. L'aéroport international de Njili, de Kisangani, de Lubumbashi, de Goma et celui de la ville de Mbujimayi sont concernés par cette première phase du projet. Déclaration faite par Patrick Sakamiso, responsable des opérations Afrique de l'entreprise de droit anglais Westminster Aviation Security Services devant la presse ce 17 mai à Kinshasa. Écoutez un extrait de l'entretien qu'il a eu avec Tati Mapoko.
La petite vidéo qui reprend en fait le parcours d'un passager lambda, dès son arrivée à l'aéroport jusqu'à son embarquement. Vous passez des filtres des sûretés, ça s'appelle les mesures de contrôle des sûretés. Pour les mettre en place, il faut des équipements qui demandent beaucoup d'argent. Donc vous devez avoir des gens qui savent manipuler ces équipements, qui savent maintenir ces équipements et qui peuvent gérer ces équipements. Et ensuite, il y a de la formation. Il faut évidemment former ces gens à utiliser ces équipements et à les maintenir. Donc c'est tout ce package-là que nous apportons à la RDC. Mais attention, il y a quelque chose que je voudrais soulever. Le partenariat en cours avec l'État congolais par les truchements de la RVA ne se limite pas qu'à ça. On va aussi accompagner l'État congolais dans la rédaction, la révision de la législation, la réglementation, parce que Westminster déploiera ses experts.
Au Kasaï oriental, reprise ce vendredi des travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de Mbujimayi. Les engins des entreprises Safrimex et Johnny Matala Company sont très visibles sur quelques artères. Le directeur de l'Office des voiries et drainage, OVD, justifie cette situation par l'arrivée à Mbujimayi de plusieurs matériaux de construction d'une part et les montages des usines d'asphaltage par ces entreprises de construction des routes d'autre part. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis ce vendredi que quelques routes de Mbujimayi ont été barricadées suite aux travaux de réhabilitation et construction de la voirie urbaine. Les engins de l'entreprise Johnny Matala Company JMC ont débuté ce même vendredi l'asphaltage de l'avenue Lubi en ville Miba à quelques mètres de l'entrée du Concelé. Il y a quelques mois que les travaux de réhabilitation de cette route ont été suspendus. L'avenue Katomba qui relie les communes de Djoulou à celle de Bipemba, les travaux de réparation de la couche de base sont en train d'être effectuées par l'entreprise Safrimex. Certains engins sont aussi visibles sur l'avenue du gouverneur et sur l'avenue Inga en diagonale de l'hôtel Cabé Deluxe. Contactez Trésor Kachala, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage OVD, justifie cette reprise des travaux.
Les entrepreneurs étaient en train de faire leur stock, soit en matériaux, soit en bitume, et les autres démarraient leurs nouvelles usines. C'est dans ce cadre-là qu'ils reprennent les asphaltages. Safrimex a fini de monter son usine, JMC a fini de faire son stock de gravier, il reprend les asphaltages.
Signalons que les travaux d'assainissement se déroulent bien sur les avenues des écoles et cathédrales. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale. 8 mois après l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël, les corps des 3 otages ont été retrouvés par l'armée israélienne. Il s'agit de Shani Luk, 22 ans, Amit Bouskila, 28 ans et Itzhak Gelerenter, 56 ans. Si le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclare vouloir poursuivre la guerre jusqu'à l'élimination du Hamas, les avis sont mitigés au sein de la population israélienne. L'attaque du 7 octobre contre le sud d'Israël a fait environ 1200 morts pour la plupart des civils et environ 250 personnes ont été prises en otage par le Hamas.
L'invité.
Le président du syndicat national des cadres et agents du secteur des services, Maniema, est notre invité. Infirmier depuis plus de 22 ans, Ami Sisselemani plaide pour la scission du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il justifie sa demande par la marginalisation dont sont victimes, selon lui, les non-médecins, surtout les infirmiers, par rapport aux médecins dans ce secteur. Ami Sisselemani s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Ami Sisselemani, bonjour.
Bonjour maman.
Vous êtes syndicaliste. Quelle est la situation de l'infirmier aujourd'hui dans la ville de Kindu, par exemple?
La situation de la ville de Kindu, les infirmiers vraiment sont toujours mécontents vis-à-vis de l'acte que pose le gouvernement central. On nous a promis de nous faire budgétiser, mais malheureusement, le gouvernement central ne réalise pas les promesses. Jusqu'à présent, à l'heure que je vous dis, au Maniema, c'est 92% des infirmiers qui ne sont pas budgétisés. Et pourtant, les Écritures Saintes déclarent que vous mangerez toujours aux dépens des sueurs produits par vos fronts. Et de même, l'Organisation internationale du travail, là où la RDC est membre, déclare que tout agent de l'État a le devoir de travailler et a aussi droit de recevoir son salaire après avoir travaillé. Mais malheureusement, nous ne recevons pas le salaire.
Vous êtes infirmier depuis combien d'années?
Aujourd'hui, c'est 22 ans et 11 mois, donc à environ 23 ans.
Pendant tout ce temps, quelle est ta situation personnelle, toi, en tant qu'infirmier?
Ma situation personnelle, jusque-là, je ne suis pas budgétisé. On m'a donné le soi-disant numéro matricule, mais ce n'est pas un numéro matricule. C'est un numéro de contact de téléphone que le gouvernement Kabila nous a donné. Parce que partout dans le monde entier, les mois qu'on donne à un agent de l'État le numéro matricule, le même mois, l'agent doit commencer à toucher son salaire. Mais malheureusement, depuis 2008, on m'a donné le numéro, le soi-disant matricule. Jusqu'à présent, je ne touche pas.
C'est-à-dire, toi, tu confonds les numéros au matricule à un numéro de téléphone, monsieur?
Mais moi, je répète, maman journaliste, dans le monde entier, le mois qu'on donne à un agent de l'État, son numéro matricule, c'est le même mois que ce dernier commence à toucher. Et c'est ça la recommandation de l'Organisation internationale du travail, là où la RDC est membre.
C'est-à-dire toi, depuis qu'on t'a donné ce numéro matricule, tu n'as jamais touché les salaires?
Jamais touché, je ne suis pas seul. Même mes confrères infirmiers ne touchent pas.
Et pendant ces 22 ans que tu es au service, au chevet des malades, tu vis comment?
Je ne vis pas, mais je suis en train de vivoter. Je mange que par la grâce et miséricorde du Père Céleste. Je sors chaque jour à la maison, je rentre toujours que mes produits. Prime de risque qu'on est en train de me donner, c'est 1/10 à celle que touchent les médecins. Et pour ça, vraiment, là, c'est injuste social. C'est pour ça qu'on est en train de dire au président de la République qu'il nous attribue, nous, les non-médecins, notre propre ministère. Et les médecins auront le leur. Parce qu'il y a vraiment inégalité et injustice sociale qui règne dans le ministère de la Santé publique. Et nous, les infirmiers congolais, nous sommes très très marginalisés, maman journaliste.
Qui vous marginalise?
Mais le gouvernement central de la RDC, plus précisément, actuel ministère de la Santé publique. Mes excuses, maman. Père Céleste qui a donné à l'homme les 5 doigts n'a pas tort. Chaque agent de la santé est nécessaire. Mais le gouvernement central de la RDC est considéré que les médecins, ce sont eux qui sont valérés. Les infirmiers, les laboratoires, les qui, et ne sont pas pris en considération.
Qu'est-ce qui vous pousse à donner ces fortes déclarations?
Ce qui me pousse, c'est quoi? Injustice, maman, et inégalité sociale faite dans notre ministère de la Santé. Et encore la marginalisation qu'on est en train de faire nous les infirmiers. D'ailleurs, en voyant le problème des primes de risque, c'est bien nous infirmiers qui devons avoir beaucoup plus que les médecins.
Pourquoi?
C'est parce que, nous restons au chevet des malades 24 heures sur 24 heures. Et les risques, nous avons, maman, au moins 99% mal chance d'attraper des risques. Les malades peuvent cracher. S'il est tuberculeux, en étant moins de 2 mètres, vous pouvez être contaminé. En perfusant, vous touchez le sang du malade. Je ne sais pas s'il est incident ou il a Covid ou Ebola. Donc, il y a vraiment beaucoup de moyens pour avoir des risques, maman.
Alors le médecin, lui, ne peut pas attraper ces maladies, il n'est pas aussi au risque?
Médecin, il n'est pas tellement au risque, maman. Médecin ne touche pas les malades. S'il est avec les malades, il ne peut pas faire plus de 10 minutes, maman. Les médecins, jamais faire plus de 10 minutes. Au plus, c'est 5 minutes et il passe. Mais l'infirmier au chevet du malade, 24 heures sur 24 heures, maman.
Mais vous n'êtes pas pris en compte?
Nous ne sommes pas pris en compte. Injustice sociale et inégalité qui règne dans le domaine de la santé.
Alors, en ce moment où les autorités vous suivent, qu'est-ce que vous demandez auprès de ces autorités?
Ce que je demande, c'est surtout au président de la République qu'il nous attribue, nous, le nom de notre ministère, qui sera baptisé ministère de sauvegarde des vies humaines. Et s'il n'y aura pas la faisabilité, alors qu'on applique strictement et rigoureusement ordonnance loi de 1992, maman, portant équivalence et correspondance en grade, c'est-à-dire même grade, même prime de risque, même grade, même salaire. Tout ça, c'est pour mettre fin aux problèmes qui se posent dans le ministère de la Santé publique.
Monsieur Amissi Selemani, merci.
À vous aussi, maman.
Amissi Selemani, président du syndicat national des cadres et agents des secteurs de services, Maniema répondait aux questions de Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Radio Kapi, mise en onde par Jean-Noël Mokondo sous la supervision et coordination d'Alain Irung Mouchinj et Jude Bilandankoumar. Patience Ngalula vous l'a présenté. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.